9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. On va parler de santé comme tous les jours sur Beurre FM. Et la santé, c'est dans l'assiette. J'ai invité ce matin Adrien Richard. Bonjour Adrien.
Bonjour Philippe, merci.
Vous êtes cofondateur du projet Faut que ça sorte. Voilà une adresse que je vais vous communiquer. Vous pouvez en même temps que vous écoutez l'émission aller sur internet pour consulter le site. C'est fautquesasorte.fr. Alors Faut que ça sorte, on explique aux gens en quoi ça constitue votre projet.
Bah ouais, on leur explique carrément. Faut que ça sorte, ça tient en une phrase. L'idée c'est de garder la pêche de l'assiette à la cuvette. On essaie de communiquer des infos médicales avec on essaye un peu d'humour pour que tout le monde puisse retrouver le chemin de la santé ou alors juste la garder quoi.
Vous êtes un site de vulgarisation du système digestif.
C'est l'idée.
Bien. Tout dit. Alors vous n'êtes pas médecin ?
Et non. Mais je suis plus que ça, je suis patient expert. Et en fait, je pense que ça parle aujourd'hui, ça parle plus aux gens. Quelqu'un qui raconte une histoire avec son vécu et avec sa propre expérience plutôt que quelqu'un qui l'a juste lu dans un livre.
Voilà, vous en connaissez un rayon sur le sujet. Alors ça démarre en Australie, votre histoire. Je ne savais pas que l'Australie, c'était une destination dangereuse pour les intestins.
Alors je ne sais pas si c'est en l'Australie qui est la destination dangereuse pour les intestins. Je pense que c'est plutôt le mode de vie qu'on y applique. L'idée, c'est que ouais... J'ai fait beaucoup de vaccins avant de partir, j'ai pas mal sollicité mon organisme sur plein de choses, et puis là-bas on fait beaucoup la fête, on mange pas forcément hyper bien, on mange pas mal industriel, on mange pas mal américain, j'ai une pensée pour eux, mais j'adore la bouffe américaine, mais là, bon voilà, on va traiter d'un sujet un peu dense.
Ouais. Et donc en Australie, qu'est-ce qui se passe ?
En Australie, qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve à un moment, je perds 8 kilos, je digère plus rien, je suis alité, j'ai du mal à bouger. Je me retrouve dans une auberge de jeunesse entourée de voyageurs, de backpackers de mon âge qui, eux, passent leur soirée à faire la fête et à boire de l'alcool. Et au milieu de tout ça, moi, je peux plus vraiment parce que j'ai pas la condition physique qui me le permet. Au milieu de tout ça, il y a un mec qui boit de la camomille le soir. Et donc c'est
deux salles, deux ambiances. Hein,
deux
comme
salles,
on dit.
Deux ambiances, ouais. Ouais. Et ce mec-là, sous son lit, il cache de la bouffe bio. Et je me dis, il va peut-être falloir qu'on se rencontre.
Ouais.
Voilà, il s'appelle William et en fait, en discutant, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques et donc on commence à voyager ensemble.
Les mêmes problématiques de galère intestinale.
Exactement. Alors lui, il était plutôt dans un... On va parler franchement, hein. Lui, il était plutôt...
Attendez, il faut dire avant, comme ça il y a Kim qui est là-bas parce qu'il est fragile. On met des bips. Donc allez-y, lui, il est plutôt tendance.
Lui, il a plutôt la tendance bouchée, constipée. Et moi, j'avais plutôt la tendance...
Inverse.
Diarrhée spray. Ouais. On est là pour parler, hein.
Non, on se dit tout. Et donc,
on se rencontre, et en fait, à un moment de diagnostic médical un peu dur à accepter, où on nous dit, voilà, tu vas probablement devoir suivre un parcours médicamenteux sur le long terme. Nous, on expérimente la médecine naturelle, l'Ayurveda, différentes pratiques un peu différentes qui proposent de se positionner sur le mode de vie et sur la façon de manger plutôt que sur le traitement des symptômes. Et en fait, on match autour de ça et on se dit, il y a peut-être un projet à en faire.
Et donc, vous avez fait un site de vulgarisation.
Ouais.
Mais très bien fait, hein, parce que vous allez vraiment dans tous les symptômes qu'on peut vivre.
Putain, ça, c'est sympa. Ben, en fait, on y va vraiment parce que nous, on y a vraiment été, tu vois. On y a été avec le corps.
Ouais, avec beaucoup d'humour.
C'est l'idée.
Parce que finalement, c'est des sujets dont on ne parle pas, ou alors on en parle en rigolant.
Bah, l'idée, c'est ça, ouais. C'est
Gêné,
mal à l'aise, parce qu'on parle de ses selles, on parle de son ventre, de sa digestion. C'est quelque chose d'hyper tabou, c'est encore pire que la sexualité. Et en fait, c'est terrible parce qu'on a tous des problèmes et personne ne devrait en avoir. Et ça tient à des petits trucs de sortir de ça. C'est vraiment fâcheux. Hein. Et donc, nous, on est là pour. Ouais, moi, je m'adresse aux gens comme moi, en fait, la trentaine, etc., qui en rigolent. Mais en fait, dans l'intimité, dès qu'ils ont une minute pour venir m'en parler, la première chose qu'ils me disent, c'est écoute, ça fait une semaine que ça sort pas. Et je leur réponds, faut que ça sorte. C'est tout.
C'est ça. T'as pas un petit truc pour la constipation ?
Là, comme ça, bon, j'ai des...
Non, mais c'est une question que moi, je pose en général, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est gros. On vous demande des conseils, quoi, aujourd'hui.
Aujourd'hui, ouais. C'est symptomatique, hein, mais même dans nos rencontres, on aimerait parfois s'en passer, ça devient... Tu vois, tu rencontres des gens, la première chose qu'ils te disent, c'est écoute, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, ça ballonne. Voilà.
Ça ballonne dur.
Ça ballonne sec.
Donc aujourd'hui, vous avez fait un site. Il n'y a pas qu'un site, hein, puisque c'est complètement, c'est un projet total que vous faites.
À la base, c'était un site. À la base, on a avancé un peu. Ça a été assez empirique comme truc. À la base, c'était un site internet où on s'est dit la vocation première, c'était de partager l'info. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte qu'on était demandé concrètement, tu vois, et que les gens avaient envie de nous rencontrer. Ils avaient besoin de conseils derrière l'écran. Et donc, on a commencé à monter des événements, des apéros où on essayait de partager un peu.
Attends, faut dire tout de suite, hein, c'est pas genre le apéro avec la charcuterie. Hein.
On n'est pas sur du saucisson fromage, clairement pas.
Non. On est sur du navet.
On est sur du navet et du hummus haute voltige.
Voilà.
mais voilà, l'idée c'est qu'effectivement, nous on s'appuie. En tout cas, notre guérison, elle s'est appuyée sur plusieurs principes, notamment l'alimentation vivante. Et on essaye de faire découvrir ça à travers, de faire comprendre aux gens qu'en fait, on peut bien manger, on peut se faire plaisir, on peut passer un bon moment entre potes. Même en vivant à Paris, même en ayant 30 ans, et en fait, tout en prenant soin de soi. C'est un peu le combat.
Alors, c'est un site, évidemment, d'experts, comme vous, mais vous dites, comme toujours, c'est que finalement, avant d'entamer quoi que ce soit ou de vous jeter dans un parcours naturel, il faut quand même aller voir un médecin.
Bah ouais, bien sûr.
C'est la base, ça remplace pas le médecin.
Bien sûr. Et puis, on aura des problèmes. Non, évidemment, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentation personnelle, et puis, de toute façon, les gens qui sont dans une situation pathologique, ils s'en rendent compte. Il y a un moment, les médecins, le médecin apporte des solutions, un diagnostic, et c'est super important, c'est primordial pour pas se planter, pour pas aller trop vite, etc., etc. Mais derrière, de toute façon, le chemin, il se fait avec son corps, il se fait avec soi-même. Hein.
Donc aujourd'hui, avec le changement d'alimentation que vous avez fait, est-ce que vous êtes guéri de tous vos problèmes intestinaux?
Bah regarde.
Ça se voit pas comme ça.
Je rigole. Non. Écoute, oui, j'aurais tendance à te dire que ça va beaucoup mieux. Il y a encore, on trébuche parfois encore parce que de temps en temps, aujourd'hui, on s'accorde quelques petits écarts. Maintenant, on revient à la vie, tu vois. Ouais. C'est important.
C'est quoi l'alimentation vivante?
Alors, l'alimentation vivante, c'est un vaste sujet, mais l'idée, globalement, c'est de venir redonner des vitamines au corps, redonner des nutriments. Donc, on va réduire un peu la cuisson, on va essayer de manger des produits de qualité, des produits naturels, et puis des produits vivants. Clairement, un steak, la vache, elle est plus trop en forme. Donc, on va réduire un peu les apports de produits animaux. Et encore une fois, nous, on n'est pas ultra radicaux. L'idée, c'est de faire progresser son alimentation vers quelque chose de plus sain. Mais tu vois, on prône pas le véganisme, le végétarisme, etc.
Et là, ce qui m'a étonné, c'est que dans votre site, qui est résolument moderne, vous avez ressuscité la méthode de quelqu'un qui est passé de mode. C'est Montignac.
Eh ouais.
Alors ça, c'est très marrant parce que lui, ça a été quand même la grande star des années 80. Ouais. Hein, c'était vraiment le régime Montignac, le roi de l'alimentation. Il a été complètement oublié et vous le réhabilitez d'une certaine façon.
Mais on réhabilite plein de gens comme ça, en fait. Mais c'est vrai que Montignac, bah oui, le roi des index glycémiques. Oui, effectivement, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de... On découvre rien. En tout cas, dans les médecines naturelles, dans les médecines qui s'attachent à traiter plutôt la cause que le symptôme, généralement, les connaissances sont déjà acquises depuis un certain temps. On ne fait que redécouvrir et remettre au goût du jour.
Vous réhabilitez quelqu'un aussi qui a écrit un livre dans les années 60, hein, qui s'appelle Catherine Cousmine.
Et ouais, moi je me suis beaucoup appuyé sur ses ouvrages.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux gens ce que c'est que cette méthode, la méthode Cousmine?
Alors la méthode Cousmine, c'est... oui, on peut leur expliquer.
Parce que son principe, c'est l'hygiène intestinale.
Ouais.
En gros.
Son principe, elle, ça va être de reconstruire une muqueuse intestinale, débarrasser l'intestin de ses impuretés. Donc, ça va passer par des lavements, ça va passer par... c'est pas forcément évident à mettre en place dans son mode de vie, hein, j'en témoigne. Mais oui, c'est l'hygiène intestinale avant tout. Et puis venir alcaliniser l'organisme, éviter de consommer trop d'aliments acidifiants, etc., etc. Donc, en fait, on va mettre en place petit à petit une diète qui est... anti-inflammatoire, c'est un peu l'idée. C'est ce qu'a repris aussi Jean Seignalet, qu'on réhabilite également, etc., etc. Donc, on va éviter les produits trop transformés, on va éviter le gluten, on va éviter les produits laitiers, tout ça. Et puis, on va venir intégrer petit à petit, effectivement, des choses qui viennent nourrir le corps.
Tout ça pour dire qu'on n'invente rien aujourd'hui, puisque c'était il y a 60 ans. Donc, déjà, il y a 60 ans, ses recherches, à elle, l'amenaient à proposer une méthode qui reposait sur justement la non-acidification de l'organisme.
Complètement, complètement. On essaie juste de remettre ça au goût du jour. Hein. Mais je pense que c'est ce que font tous les praticiens de santé naturelle aujourd'hui. Ils s'appuient sur des connaissances séculaires.
Alors, quelles seraient pour vous les bonnes règles pour éviter les problèmes digestifs ? Est-ce qu'il y en a ?
Ouais, il y en a plein, mais oui, oui, il y a plein de... Pour moi, oui, je vais essayer de synthétiser et faire un truc un peu compact parce que ça pourrait durer des heures, mais on va faire vite. Je pense que la première chose, effectivement, et le premier facteur des maladies qu'on appelle les maladies de génération, bah, c'est la consommation d'alimentation transformée et d'alimentation industrielle. On est tous globalement, en tout cas ma génération, on a été biberonnés à ça et on a grandi dans les supermarchés. C'est ce qui est pas grave. Et moi, je comprends les parents, je comprends que par rapport au mode de vie, il a fallu en passer par ça. Maintenant, je pense qu'il faut en revenir. Parce que en fait, le truc qui tue le plus en France, c'est le cancer du côlon. Hein, c'est pas la clope ou la voiture. Hein. Donc, on se rend compte que en fait, notre mode d'alimentation, il est vraiment problématique. Donc, commencer par acheter des produits non transformés, bruts, et puis réintégrer un peu sa cuisine, se réapproprier sa cuisine et retrouver une alimentation, j'aurais tendance à dire traditionnelle, bah, c'est déjà un gros premier pas. Ouais.
La base, c'est cuisiner soi-même.
C'est la base. Voilà, c'est
au moins savoir ce qu'on mange.
Exactement, savoir ce qu'on mange, tout est dit. Après, dans les pratiques alimentaires, il y a plein de petits trucs que les gens connaissent pas et qui en fait viennent nous épuiser et ralentir et causer des troubles digestifs complètement stupides, alors qu'on pourrait s'en passer hyper facilement. J'ai envie de te parler de l'eau, par exemple, pendant les repas. On a tendance à boire la majorité de l'eau qu'on boit en fait pendant la journée, c'est pendant les repas, alors que c'est contre-productif. Imagine l'estomac, c'est comme une bassine avec de l'acide. Grosso modo, et son travail, c'est de on met les aliments dans l'acide et ça dissout. Bon, fin de l'histoire. Si on rajoute 2 litres d'eau sur de l'acide, bah ça va le diluer. Et en fait, la carotte qu'on vient d'avaler pendant le repas, bah elle va flotter, quoi. Elle va pas être digérée. On va mettre 4 heures là où on aurait pu utiliser 30 minutes. Donc voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça. Les associations alimentaires, c'est pareil. Il y a des choses qui se digèrent très vite. Par exemple, les fruits. Si on les mange à la fin des repas et on les met dans un bol alimentaire qui va nécessiter 4 heures de digestion, bah en fait les fruits vont se retrouver bloqués dans le bol alimentaire. Et qu'est-ce qui se passe? Bah ils vont fermenter et ça ballonne. Tu vois, alors qu'on les aurait mangés à une demi-heure du repas ou avant le repas en entrée.
Avant le repas,
ouais. Ouais, ouais, ça aurait fait la différence. Donc il y a voilà, des petites pratiques comme ça à mettre en place dans son quotidien. Et puis après, sur l'alimentation à proprement parler, il y a quand même des aliments qui posent problème aujourd'hui, notamment les farines transformées. On parle beaucoup du gluten, mais bon, c'est un sujet un peu star et pour cause. Et puis moi, j'aurais tendance à appuyer un peu sur les produits laitiers, en tout cas les produits laitiers de vaches pasteurisées. Pourquoi ? Parce que, et là c'est pareil, c'est une réflexion qui paraît simpliste comme ça, mais la vache, je vous donne une petite réflexion comme ça. Le veau, c'est l'animal qui consomme le plus de lait sur Terre proportionnellement à sa taille pendant sa période de croissance. Ok, quand le veau arrive au sevrage et qu'il devient vache ou bœuf ou taureau, peu importe, il arrête de boire du lait, il mange de l'herbe. Il n'y a pas un animal sur Terre qui continue à boire du lait ou à consommer des produits laitiers
au-delà du sevrage,
en dehors de sa période de croissance. Voilà. Et nous, qui plus est, on s'est dit, on va continuer, mais on va aller chercher le lait d'une autre espèce. À la limite, on ferait du fromage d'humain. Je rigole, hein, mais...
Non, ça serait... c'est une idée. Il y a un business, il y a un marché à prendre.
Non, voilà. Mais ça serait presque plus cohérent.
Pourquoi pas, ouais.
Ça serait presque
mais ça va venir, vous allez voir.
Ouais. Bon, en tout cas, on sera là pour le défendre. Ouais.
Non, mais c'est l'idée. C'est qu'en fait, finalement, on continue à boire du lait d'un animal qui s'en sert pendant sa croissance.
Ouais, alors qu'il y a un taux protéique. On n'est pas des veaux, quoi. On n'est pas capable d'assimiler. Non, mais c'est. On n'est pas capable d'assimiler une quantité de protéines aussi et de glucose aussi dense que ce qu'on peut trouver dans le lait. C'est pas fait pour le corps humain. Donc, en fait, ce qui n'est pas fait pour le corps humain devient poison. C'est aussi bête que ça. Et nous, dans notre alimentation quotidienne, je dis quotidienne, c'est quelque chose qui est omniprésent.
Ouais. On a grandi le matin avec un bol de lait.
Ouais, un bol de lait.
Avec du chocolat dedans.
Et une bonne petite brioche pour aller avec, etc. Et en fait, on accumule dans l'organisme des aliments qui sont inflammatoires, irritants ou non digestibles. Donc forcément, au bout d'un moment, ça crée des déchets. Et quand on a des déchets, ben, ça crée des déséquilibres au niveau de la flore intestinale, etc. etc. Et puis c'est la cascade, quoi.
Bien, alors la santé, c'est dans l'assiette. On verra tout à l'heure concrètement ce qu'on peut changer en mangeant différemment. Puis on va s'intéresser à une échelle qui intéresse beaucoup Kim qui réalise l'émission. C'est l'échelle de Bristol, Kim. Oui, je sais. Tu cherches sur Internet l'échelle de Bristol. Si vous voulez réagir et poser vos questions, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, votre santé, la santé, c'est dans l'assiette. Et aujourd'hui, j'ai invité Adrien Richard. Vous êtes cofondateur du projet Faut que ça sorte. www.fautquesasorte.fr, c'est le site santé dont tout le monde parle aujourd'hui. En tout cas, toutes les personnes qui sont concernées par des problèmes d'intestin, de digestion, de ballonnement, de constipation, de diarrhée et tout autour de ça, en gros.
C'est l'idée, mais on espère aller plus loin.
Alors, on parlait de l'échelle de Bristol tout à l'heure. C'est quoi l'échelle de Bristol pour Kim ?
C'est du lourd. C'est une échelle qui a été conçue par, je crois, de mémoire, ça devait être dans les années 60, mais je dis peut-être une bêtise.
1997.
Ah merde, c'est plus récent que ça.
L'université de Bristol.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est on a catégorisé les selles humaines par texture et par consistance et par forme pour pouvoir avoir une idée de son état de fonctionnement intestinal et de son état de santé. Et en fait, alors on a fait ça, voilà, Bristol, on a appelé ça Bristol, on s'est dit c'est révolutionnaire, mais en fait si on s'intéresse aux médecines traditionnelles, et même si on va chercher dans nos ancêtres, les grand-mères, elles pesaient à la main hein, les selles des enfants, etc. Enfin, c'est des choses qu'on a toujours faites. Et puis on s'en rend compte, quoi, globalement, quand on évacue un truc un peu étrange, qu'il y a peut-être un problème.
Donc c'est comme l'échelle de Richter, hein, qui évalue les séismes.
C'est ça. C'est
avec une chaîne de graduation qui va de 1 à 7.
C'est ça. Voilà. C'est ça, et du plus dur au plus mou, globalement.
Voilà, graduation de texture spéciale caca. Donc ça, c'est sur votre site, par exemple, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui veulent justement ça, et qui se posent des questions.
Ouais, et j'ai juste une chose à vous dire par rapport à ça. Allez chercher le type 4. Le type 4, c'est le bonheur, c'est la santé. C'est ce qu'on appelle imperfect.
Ah, c'est ça. Ah oui, ah, non, il faut tendre vers le type 4.
Il faut tendre vers le type 4.
D'accord. Voilà.
C'est notre objectif à tous.
D'accord, je vais me pencher sur le... Mais vous voyez, on rigole, mais en fait, tout le monde regarde, en fait.
Bah ouais, tout le monde regarde, mais personne n'en parle. Ou alors, encore une fois, on en parle quand ça va très très mal. Mais oui, tout le monde devrait regarder. Moi, j'invite vraiment chacun des auditeurs aujourd'hui à regarder... derrière soi quand il sort des toilettes.
D'accord. Parce que, et de faire la comparaison sur la fameuse échelle, quand même.
Ouais. Et puis de savoir si ça a été un moment globalement plutôt de bonheur ou plutôt un moment de souffrance, parce que c'est aussi ça le bon indicateur.
Hein. Adil, ce matin, c'était 8. Il était hors échelle. Mais il avait mangé quelque chose qu'il n'avait pas hier.
Ouais. Bah, 8, ça a dû être plutôt efficace. Ça a dû se faire
sans. Ah, mais sur l'échelle de Bristol, je peux vous assurer qu'après, Adil, il a fait son émission, il volait. Alors, on va parler des dysbioses.
Yes.
Alors,
gros sujet.
Je connais les dysbioses.
Les dysbioses, la dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Grosso modo, si j'essaye de résumer simplement les choses, la flore intestinale, qui s'appelle aujourd'hui microbiote intestinal, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que des fleurs, il y avait aussi des champignons et tout un tas de bactéries. Donc voilà, c'est grosso modo le microbiote. C'est un écosystème qu'on a à l'intérieur de notre intestin, plus particulièrement du côlon. Un écosystème qui nous permet de digérer, qui pèse grosso modo 2 kilos. Donc on pèse à peu près 2 kilos de bactéries.
Ouais, c'est ça, c'est des bactéries. Ouais.
Ça, c'est pour l'info. Ouais. Et en fait, c'est des centaines de souches de bactéries différentes qui coopèrent, un peu comme dans une forêt, pour venir dégrader les restes de fibres, etc. Enfin, tout un tas de vitamines, de minéraux. Il faut savoir que sans cet écosystème bactérien, en fait, on est absolument incapable de digérer quoi que ce soit. Mmh. Ça fait partie de... Donc, on n'est jamais seul. C'est le premier message, très positif. Mmh.
Alors, la dysbiose, c'est quoi ?
La dysbiose, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va avoir une famille ou plusieurs familles de souches bactériennes qui vont se développer en excès à des endroits où elles n'ont pas forcément à se développer. Par exemple, si on consomme trop de sucre, eh ben on va avoir la famille des bactéries qui raffolent du sucre, qui va se développer en excès et qui va tellement se développer qu'elle va remonter potentiellement, elle peut remonter jusque dans l'intestin grêle, qui est censé être un endroit propre, enfin en tout cas dépourvu de bactéries. Et venir s'installer un peu trop haut dans l'intestin. Mmh. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quand on a des familles bactériennes qui viennent s'installer à ces endroits-là, eh ben, elles vont commencer à manger ce qu'on mange. Donc nous, on va moins absorber. C'est-à-dire que c'est dommage parce qu'on va, on va commencer à la moitié de notre alimentation, elle va nourrir plutôt nos bactéries que notre propre corps. Et puis quand elles ont plus à manger, eh ben, elles vont commencer à bouffer la paroi de notre intestin. Parce que la muqueuse de notre intestin est constituée de glucides également, donc de sucre, etc., etc.
Donc en symptômes, ça donne quoi ?
En symptômes,
pour nous,
ça donne essentiellement, dans les premiers temps, ça donne essentiellement des ballonnements, parce que leur activité métabolique à elles, les bactéries, en fait, quand elles mangent, bah, elles produisent des gaz, notamment du méthane, de l'hydrogène, etc., etc. Et donc, grosso modo, quand on va manger des aliments qui comportent des sucres, que ce soit des sucres rapides, raffinés, ou alors des fruits, ou même des pâtes, des sucres complets, etc. Grosso modo, on va avoir des ballonnements en partie haute de l'abdomen. Ça va être les premiers symptômes. On gonfle, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, les symptômes qui suivent, c'est qu'en fait, la production de gaz, notamment la production de méthane, ça va jouer beaucoup sur le méthane va passer dans le sang, et en fait, ça va venir constiper, ralentir très fortement le transit. Et si on a plutôt des familles qui produisent de l'hydrogène, bah là, l'hydrogène, il va passer dans le sang, il va venir accélérer le transit. Donc, on va avoir plutôt des diarrhées.
C'est-à-dire qu'on peut avoir l'un et l'autre, en fait.
On peut avoir l'un et l'autre, ouais. Et souvent, en fait, on a l'alternance des deux. Mais en fait, la dysbiose, c'est quelque chose, je pense que c'est vraiment un facteur de. Dans les gens qui traversent des épisodes de ballonnement, de selle irrégulière, etc., c'est quelque chose sur lequel les médecins se positionnent pas spontanément, et je pense que c'est pourtant éprouvé par franchement plus de la moitié de la population. C'est avec notre alimentation,
c'est l'alternance donc de constipation et de diarrhée et de ballonnement
etc. C'est des symptômes qu'on rencontre tous, et en fait la plupart des gens ont tendance à répondre quand on leur parle de ça, bah ouais, mais j'ai toujours un système digestif fragile, ou alors c'est héréditaire, ou alors machin. En fait, peut-être effectivement qu'il y a une part d'hérédité qui joue là-dedans, mais la vérité c'est que si on travaille sur son mode de vie, sur son alimentation et sur son environnement, on peut influer là-dessus, et on peut retrouver une santé tout à fait optimale.
Souvent les gens apprennent à vivre avec ça.
Exact. Revivre.
Oui, c'est ça le truc. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on élabore et on trouve la méthode pour en venir à bout de cette dysbiose ?
Déjà, il faut.
C'est quoi le parcours du.
Le parcours du combattant.
du plaignant.
Le parcours du plaignant. Déjà, c'est intéressant de savoir. Quel type de dysbiose on a. Donc si on a plutôt, effectivement. Des bactéries qui font de l'hydrogène, etc. Enfin, quel type de famille bactérienne on a dans le ventre, parce que ça va être plus simple de s'y attaquer derrière. Il y a des tests, respiratoires. Grosso modo, on arrive à jeun, on nous fait souffler dans un ballon, et puis après, on mesure la qualité de l'air expiré. Ça nous donne une idée du stade où on en est. Voilà. Mmh. Et puis ça vient confirmer ou infirmer si on est porteur d'une dysbiose ou pas. Après, dans l'idée, la dysbiose, moi, j'aurais tendance à penser, quoi qu'il arrive, il va falloir raffiner son alimentation, c'est-à-dire réduire la consommation de sucre dans un premier temps, et puis la consommation de sucre complexe également. C'est-à-dire remplacer potentiellement une alimentation aujourd'hui principalement basée sur les céréales, les amidons, les pommes de terre, les trucs comme ça. On va venir manger peut-être un petit peu plus gras, mais un peu moins sucré, pour venir affamer en fait les familles bactériennes qui se développent dans l'intestin grêle. Et c'est déjà un très bon premier pas. Après, il y a un deuxième sujet qui est important et que j'adore aborder. C'est le jeûne intermittent, c'est de laisser du repos à l'intestin. Et effectivement, le repos digestif, c'est un truc qu'on n'en parle jamais. Quand l'intestin est abîmé, qu'il y a une dysbiose, etc., etc., la première chose à faire, en fait, c'est de laisser au repos. Je vous prends un petit exemple comme ça. Je pense qu'il est assez parlant. Si on a une croûte sur le bras, ou sur le genou, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on peut faire pour la soigner ?
On gratte la croûte.
Ouais. En fait, voilà. En fait, on la gratte pas. Et en fait, le tissu. Voilà.
On sait qu'il faut pas la gratter, mais voilà.
Le tissu se régénère tout seul. Mmh. Tu vois, on n'a même pas à mettre.
Il se répare. Voilà.
Il se répare. Le corps, il sait faire. Mais l'intestin, c'est pareil, en fait. Quand on a un tissu qui est abîmé dans l'intestin, on arrête de gratter. Donc si on arrête de manger pendant un moment. D'une part, on va pas mourir en deux jours, ça c'est faux. Et puis, d'autre part, bah, en fait, on laisse l'opportunité à l'organisme de se régénérer et de retrouver son équilibre. Donc ça, c'est un super, super outil.
Alors, quand on parle de jeûne intermittent, vous parlez de quel type de jeûne ?
Alors, jeûne intermittent parce
qu'il y a un jeûne intermittent qui consiste à manger enfin, pendant une période de temps de 8 heures et de jeûner pendant 16 heures.
Est-ce c'est un peu l'idée. Ouais.
C'est ça. Est-ce que c'est de ce jeûne-là dont vous parlez?
Ouais, c'est de ça dont je parle parce que je pense que c'est le plus accessible aujourd'hui. C'est le plus facile à mettre en place dans nos modes de vie. En fait, il suffit de s'arrêter de manger à 20 heures le soir et de ne pas manger le matin, reprendre son alimentation vers midi et on a respecté ce repos digestif. Donc, c'est vraiment pas dur à mettre en place. C'est pas quelque chose qui est très impactant socialement parce que le petit déjeuner, c'est pas non plus. Souvent, c'est pas un repas de banquet, quoi. Donc ça se fait assez facilement.
Ouais. Et ça, faut le faire pour sur quelle durée?
Alors là, après, c'est chacun sa paroisse. Moi, c'est mon quotidien à vie, peut-être ou peut-être pas. Il y a des matins, t'es vraiment fatigué, il faut s'écouter aussi. Hein. Mais bon, voilà. Dans l'idée, on peut le faire. Enfin,
c'est-à-dire qu'on peut adopter continuellement comme mode d'alimentation ce mode-là.
Complètement.
Alors quand on dit manger pendant 8 heures, c'est on mange pas en continu pendant 8 heures.
Hein.
On s'autorise à manger sur une période de 8 heures.
Voilà, et encore une fois, si sur cette période de 8 heures, on peut venir se faire des plages de repos digestif un peu sympa, 3 heures entre les repas, etc., c'est pas mal, parce que c'est autant de temps de gagner pour venir se régénérer et se nettoyer. Et dans la dysbiose, c'est particulièrement important, parce qu'en fait, on a un mécanisme, un peu compliqué, on va pas le détailler là, mais qui fait qu'on a un balayage intestinal qui se déclenche environ 2 ou 3 heures après le repas. Un espèce de réflexe électromagnétique qui vient nettoyer les intestins de bas en haut et particulièrement chasser les familles bactériennes qui sont dans l'intestin. Et là, le drame, c'est le grignotage, quoi. Parce que même si on mange un petit truc dans l'après-midi, et ben en fait, on va venir couper ce mécanisme de nettoyage et derrière, les bactéries restent là. C'est dommage.
Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a déterminé la dysbiose de laquelle on souffre, après avoir fait le test, qu'on est allé voir le toubib, on peut avoir, grâce à une façon de s'alimenter, on peut venir à bout de la dysbiose. C'est ça que ça veut dire?
C'est l'idée. Ouais. Et si c'est vraiment l'enfer, après, il y a deux, trois petites plantes qui peuvent venir en soutien. On peut intégrer dans son alimentation aussi des aliments qui vont venir globalement réduire les populations bactériennes. Il y a des fongicides naturels comme l'ail, le gingembre, la cannelle, l'origan. Enfin, c'est des condiments, en fait, hein, qu'on peut juste cuisiner avec. Et ça va beaucoup aider à réduire les symptômes et la problématique.
Bien. Dans un instant, nous allons parler des champignons. Enfin, pas des champignons qu'on mange, mais des candidoses.
Ah, c'est mon
préféré. On est envahi par les candidoses. Si vous voulez rejoindre la conversation et poser vos questions, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on vous le répète, mais la santé, c'est dans l'assiette. J'ai invité aujourd'hui Adrien Richard. Vous êtes membre de la team du BID, vous êtes cofondateur d'un projet qui s'appelle Faut que ça sorte. C'est un site de santé, fautquesasorte.fr, et vous en connaissez un rayon sur le système digestif, c'est ce qu'on voit avec vous ce matin. Vous êtes ce qu'on appelle un patient expert. Quelles sont vos sources aujourd'hui pour avoir vos informations?
Des centaines de lectures, des heures et des heures d'exploration numérique aussi. En fait, par la maladie que j'ai traversée, j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie, au métabolisme et puis au fonctionnement du corps. Et puis finalement, très rapidement, c'est devenu une passion. Et puis aujourd'hui, je peux même vous confier que ça m'arrive le soir à la veillée de me regarder une petite vidéo YouTube d'un chercheur ou d'un médecin. Et c'est des choses qui m'éclatent.
Français, anglais, un peu partout.
Ouais, un peu partout, ouais. On croise les sources.
Bien, alors on parlait des champignons tout à l'heure. De quels champignons est-ce qu'on parle?
Ben, on va parler de la candidose.
La candidose, alors qu'est-ce que c'est que la candidose?
Alors la candidose, c'est un champignon, c'est une levure dont on est tous porteurs. Tous les humains sont porteurs de cette charmante levure qui évolue dans le microbiote intestinal, dans la flore intestinale, à l'état de levure quand tout se passe bien. Et en fait, qui peut devenir une affection chronique avec différents symptômes, très invalidants ou pas, lorsqu'on a un terrain déséquilibré et potentiellement un terrain plutôt acide. Je vais reprendre encore une fois le parallèle de la forêt. L'idée, c'est que un champignon. Prenez un arbre dans la forêt, un arbre mort ou un animal mort. Il tombe par terre. La première chose qui se passe, en fait, pour venir dégrader cette matière. C'est que c'est les champignons qui vont venir pousser dessus, qui vont venir dégrader la matière organique. Et en fait, ça se passe exactement pareil dans le corps. Ce qu'il faut se dire, c'est que un champignon a besoin de trois conditions pour exister. D'une, il va venir dégrader de la matière, c'est son rôle, gérer les déchets et les choses qui restent en place. Mmh. Il va venir pousser uniquement sur un terrain acide. vous trouverez jamais un champignon sur un terrain alcalin. Donc ça, c'est une deuxième condition qui est assez intéressante.
Alcalin, c'est donc c'est le contraire d'acide.
Ouais, c'est un pH au-dessus de 7 globalement. Voilà. Et donc
jamais sur un terrain donc alcalin.
Ouais.
Et on en a tous. Et c'est normal.
Et en fait, c'est même quelque chose. Ça, c'est un message d'espoir que j'ai envie de partager ce matin à tous ceux qui aujourd'hui ont des problèmes avec une candidose chronique. Le candida albicans, il est là pour vous faire du bien. Il est là pour vous débarrasser des déchets qui stagnent quelque part dans l'organisme. Donc la première chose à faire, en fait, si on veut se débarrasser profondément de la cause du champignon, c'est d'une part changer la nature de son terrain, donc passer d'une acidose à un terrain un peu plus alcalin, et puis d'autre part venir éliminer les déchets.
Ouais. Le problème, c'est quand il y en a trop, quand on est envahi en fait.
Le problème, c'est qu'à un moment, ce que j'ai pas terminé tout à l'heure, c'est qu'il passe de sa forme levure, sympa et agréable, à sa forme mycélienne. Donc en fait, il va tisser un réseau filamenteux sur la paroi intestinale en premier lieu et venir dégrader, déloger les déchets qui s'y trouvent.
Là, il vous envahit carrément.
Là, il vous envahit de l'intérieur.
Ouais.
Et puis, si ça va plus loin, il peut remonter les organes jusqu'à la bouche. Donc on peut le voir apparaître sur la langue, notamment, ça fait des espèces de pastilles blanches sur la langue. Il peut également apparaître au niveau des organes sexuels, particulièrement à l'occasion de ces sympathiques mycoses vaginale. Bref, encore un petit message.
En fait, c'est une mycose intestinale.
C'est une mycose.
Voilà, qui migre.
Qui a tendance à se généraliser si on lui donne encore une fois l'opportunité de se généraliser.
Ouais. Bon, quels sont les symptômes dans l'intestin, donc?
Alors, quand on s'en tient à l'intestin, les symptômes, ça va être, on a une palanquée de symptômes. Alors, les premiers symptômes digestifs, ça va être, encore une fois, des ballonnements, particulièrement des fringales de sucre. On a des envies irrépressibles de sucre parce que le candida se nourrit exclusivement de sucre. Il est capable de manger aussi du gras, mais sa nourriture préférée reste le sucre. Et l'idée, c'est que il produit naturellement des protéines, des hormones, etc., qui vont venir impacter notre système nerveux et nous donner l'information qu'on a besoin de sucre. Or, c'est pas nous qui en avons besoin, c'est lui.
C'est lui qui a faim.
C'est lui qui a faim et
ouais,
il appelle.
Qui réclame. D'accord.
Et donc, on a des fringales sucrées terribles. Suite à nos fringales sucrées, on va avoir des ballonnements, on va se mettre à gonfler parce que lui aussi, il a tendance à produire pas mal de gaz. Quand on mange des produits avec des levures, notamment la moutarde, le vinaigre, la bière, etc., pareil, on va avoir ça l'active très très fort. On va avoir des réactions ça peut partir en constipation, diarrhée, etc. Bon, voilà, mais très souvent on a un inconfort digestif avec des ballonnements et des douleurs intestinales hautes. Encore une fois,
comment c'est détecté ça? Comment finalement on arrive à savoir qu'on est colonisé?
Alors il y a plusieurs possibilités. La première, ça va être l'autodiagnostic, et je pense que c'est le plus fiable. Alors, pour un autodiagnostic, sur Internet, simplement, il y a des tests. Vous tapez test candidose sur Google et il y a plein de tests. Il y a 50 questions à répondre. Et puis, ça va vous donner, en fonction du score que vous allez tirer, vous allez avoir une idée de comment vous positionnez.
Il est sur votre site, d'ailleurs, le test. Hein,
Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis il y a aussi un test un peu simple à faire à la maison, un peu rigolo. On met de l'eau dans un verre et puis on vient cracher dans le verre le matin à jeun. Et en fait, normalement, si tout se passe bien et qu'on n'a pas atteint de candida, la salive reste en surface. Maintenant, si on a une candidose, la salive coule et elle fait des espèces de filaments dans l'eau. C'est hyper explicite. On ne peut pas trop se tromper, généralement.
Mais il est bien celui-là, test, finalement.
Ouais, il est pas mal.
C'est plus rapide que de répondre à 50 questions, franchement.
Ouais, après, ça
bon,
peut
Thomas,
venir...
ça va cracher dans les verres, hein, juste tout de suite.
Ça peut venir confirmer ouais. des choses, infirmer des choses. Et puis après, il y a des tests.
Donc, si ça tombe, si le.
Ouais.
Ça tombe, c'est que c'est.
Si ça tombe et
qu'est-ce
que ça
fait
filament dans
si
le verre.
Si ça tombe, qu'est-ce qu'on fait
Si ça tombe, qu'est-ce qu'on fait? On panique pas. On se dit, OK, il y a quelque chose, dans mon mode de vie qui merde. Il y a probablement des déchets quelque part dans mon organisme. C'est la seule chose à se dire. Donc potentiellement, on va venir alléger son alimentation. Et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va venir ralentir les sucres, particulièrement les sucres rapides et les aliments fermentescibles.
Enfin, moi, j'ai vu, parce que vous proposez un régime anti-candido sur le site, que vous supprimez les sucres carrément.
Ouais, alors encore une fois, là j'aurais tendance à...
En tout cas, vous indiquez que ça fait partie des aliments à supprimer.
Ouais, c'est la base. Parce que la candidose, elle crée des symptômes quand elle est nourrie par les sucres. J'aurais tendance à dire effectivement supprimer les sucres, mais quand vous allez rechercher dans la plupart des ouvrages, dans la plupart des documentations justement, comment traiter la candidose par une diète, on a des régimes sans sucre, totalement sans sucre, régime cétogène, paléo, etc., etc. La difficulté de ces régimes-là, c'est qu'en fait, si on arrête complètement de consommer des glucides, le candidat, il est comme nous, il est capable de passer en cétose, c'est-à-dire d'aller manger des corps gras, et en fait, son premier réflexe, c'est que s'il a plus de sucre dans l'intestin, il va venir perforer la muqueuse intestinale pour aller piocher du sucre dans le sang. Donc en fait, c'est plutôt contre-productif d'être trop radical dans sa démarche. On va réduire les sucres pour venir l'affamer un peu, mais on va quand même continuer à en manger un petit peu, histoire de pas...
Faut pas supprimer
Ouais, parce que et de toute façon, globalement, dans les approches de santé, particulièrement tout ce qui est lié à l'intestin, tout ce qui est beaucoup trop radical et trop prononcé, ça va venir créer des dommages. Hein. Souvent, il faut être progressif.
Bon, alors après, vous verrez, il y a des thématiques hein, comme l'hyperperméabilité intestinale. Donc là, pareil, vous expliquez... ça aussi, c'est très courant. Hein, ça fait partie de ces fameuses maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. MISI, comme on les appelle.
Ouais, et généralement, en fait, elles sont toutes liées. Généralement, les gens qui ont un intestin hyperperméable, ils ont souvent aussi une dysbiose et une candidose. En fait, tout se recoupe. À partir du moment où on a un organisme qui est non fonctionnel, il y a tout un qu'on crée des déchets, qu'on crée des stases, etc. Il y a tout un tas d'organismes qui peuvent venir s'installer dessus. Et encore une fois, j'aurais tendance à vous dire, et c'est une belle vision de la santé pour arrêter d'être dans le combat contre la maladie, mais plutôt dans la remise en question et dans la prise de responsabilité par rapport à son corps. Les bactéries qui s'installent, les champignons qui s'installent, ils s'installent parce qu'il y a des déchets à traiter. Ils sont là pour aider parce que votre organisme n'arrive pas à le faire. Sur un organisme sain qui fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait ce genre de parasites qui viennent s'installer.
Donc ça interroge en fait.
Donc ça interroge vraiment sur le positionnement qu'on a
et sur le mode de vie qu'on a.
Complètement. Et c'est ça, en fait, la maladie, c'est un message hyper fort, mais la maladie, c'est le symptôme, c'est une question que le corps vous envoie, et une question à votre mode de fonctionnement et à vos problématiques actuelles.
Il y a un chapitre également sur les RGO, donc les fameux reflux gastro-œsophagiens, mais il y en a beaucoup hein, de personnes qui ont ces fameuses remontées acides le matin.
Et on a tous, en fait, si on prend... Moi, j'ai vécu pendant 2 ans là, dans une colocation de 20 personnes, donc j'étais bien entouré. Et il n'y avait que des gens d'une trentaine d'années, on pourrait se dire potentiellement que des gens en pleine forme. Ils se reconnaîtront. En fait, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que sur ces 20 personnes, je pourrais vous dire peut-être 80% des gens vivent avec des symptômes, les acceptent, mais en fait, se posent pas plus de questions que ça. Mais en fait, on n'a pas à vivre avec un inconfort. C'est pas normal.
Ouais. Mais ça, c'est lié quand même à l'alimentation, à la vie que les gens mènent.
Et puis au stress. Je me permets d'en mettre juste de placer ça rapidement, mais Le stress, c'est le premier facteur d'acidification, d'irritation, etc. Et en fait, on a tendance à penser uniquement à travers l'alimentation, parce qu'effectivement, c'est un levier sur lequel on peut travailler plus facilement. On mange 3 fois par jour, donc on peut, à chaque repas, décider de ce qu'on mange. En revanche, si on est un jeune papa, une jeune maman, qu'on a un boulot compliqué, etc., c'est un peu plus dur de bosser sur son stress. Mais pourtant, c'est essentiel. Voilà.
Bien, alors que répondez-vous à cette fameuse question qu'on vous pose tout le temps je suis constipé depuis une semaine. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Qu'est-ce que vous répondez à la personne qui vous la pose?
Déjà, je lui demande comment elle vit. Je lui demande comment elle mange. J'aurais tendance à lui dire couche-toi tôt, respecte-toi et mange des fibres.
D'accord. C'est pas un truc. Bois un verre d'eau, prends une cuillère d'huile d'olive. Les gens, ils aiment bien en fait les trucs
après,
comme ça.
Si tu veux vraiment des trucs, si, il y a des choses qui viennent faire glisser un peu la paroi. Fais tremper des graines de lin dans un verre d'eau le soir. Consomme ça le matin en le mâchant en prenant le temps de le mâcher. Déjà, ça devrait partir beaucoup plus vite. Ouais. Il y a pas mal de trucs. Hein. Les graines de chia. Graines de chia trempées dans l'eau. Pareil, ça va créer une espèce de gel qui va venir lubrifier tout ça. Ça peut pas mal aider. L'activité physique, l'activité sportive. C'est le premier vecteur
du transit, c'est bon pour le transit.
Et c'est ça, et en fait on bouge pas, on s'étonne après qu'à l'intérieur ça bouge pas, mais si nous on bouge pas à l'extérieur, ça peut pas bouger à l'intérieur. Donc première chose, faire du sport, et après effectivement il y a des petits tips, il y a le psyllium, des petits tips, des petits conseils.
Des tips,
des astuces.
Tips. Ouais. Si vous avez raison, c'est mieux de dire des tips.
Ouais, je sais pas.
En termes de santé, on voit quand même que les messages qui sont vrais aujourd'hui ne sont pas forcément le lendemain. En quoi les messages que vous donnez sont des messages qui vont traverser le temps?
Bah en fait, c'est des messages qui ont déjà 2000 ans, donc moi j'invente rien. Les messages qu'on diffuse aujourd'hui, on vulgarise une connaissance médicale et scientifique qui existe depuis la nuit des temps. Y a pas de surprise dans ce qu'on apporte, et c'est pas des messages de, on vient pas révolutionner le monde, on vient juste dire aux gens, reconnectez-vous à vos sensations, reconnectez-vous à votre corps comme il sait fonctionner, parce qu'il sait fonctionner naturellement. Et donc, l'essentiel du message, il est là. Il n'est pas dans « j'ai la solution miracle pour vous ». Le message, plutôt, c'est « la solution est en vous
». Mmh. Ouais. Parce que c'est vrai que les messages se contredisent souvent en termes de santé. Hein,
et particulièrement
ce qui perd les gens aujourd'hui. Hein.
Complètement. Et je te rejoins complètement là-dessus, particulièrement dans les régimes. En fait, on se rend compte que tel médecin va dire la diète cétogène est fantastique. Tel médecin va dire vous mangez que des fruits, c'est fantastique. Tel médecin, Kousmine, va dire quelque chose. Seignalet va dire quelque chose. Et en fait.
Il y en a un qui va te dire bois du citron le matin, c'est bon pour toi. L'autre qui va dire mais non, c'est trop acide. C'est trop violent à ce que tu donnes à ton organisme le matin. Donc c'est vrai que les gens sont perdus aujourd'hui.
Et ils ont tous des résultats. C'est ça qui est formidable. C'est que tous ces médecins-là ont de très bons résultats. Et donc, moi j'aurais tendance à dire. Tout peut marcher dans la mesure où effectivement on reprend conscience de ce qu'on fait et on fait attention à soi. Mais il y a, pour moi, dernier message, il n'y a pas une diète spécifique. Non, il n'y a pas une diète spécifique qui marche pour tout le monde, mais par contre, il y a une diète qui marche pour chacun à chaque moment de sa vie en fonction de son état.
Ah, donc, comme on se connaît le mieux, il faut écouter son corps et chacun adapte sa propre diète.
Hein. Complètement.
C'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure.
Exactement. La solution vient jamais de l'extérieur, elle vient toujours de l'intérieur.
Bien, alors, faut que ça sorte. Vous allez sur le site fautquesasorte.fr. Donc, vous publiez à quelle fréquence ?
Écoute, sur les réseaux sociaux, on a tendance à publier 3 à 4 fois par semaine. Après, les articles un peu plus costauds sur le site, on en publie peut-être 2 par mois.
On peut vous poser des questions directes ?
Ouais, carrément, ouais. Avec plaisir.
Les gens qui ont des questions, vous pouvez les poser. Fautquesasorte.fr. Adrien Richard, c'était votre première radio.
C'était ma première radio, c'était chouette.
Bon. On retrouvera l'interview sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Et bonne journée et bonne santé sur Beurre FM.